Alors, la dernière fois, on avait commencé à parler des émotions. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était ici, mais en fait, donc j'expliquais dans les chulings que pendant les mois qui vont venir, on va parler de trois manières de travailler sur les émotions. La première que j'ai évoquée le mois dernier, c'était le fait de, c'est la base, savoir laisser passer les émotions. C'est un apprentissage qui est très, très précieux et très profond. Apprendre à laisser passer, tout simplement. Les émotions, donc quand on dit les émotions, en fait, en tibétain, il n'y a pas tellement de termes pour différencier. On n'utilise pas le terme émotion. On parle d'avènements mentaux, donc ça peut inclure les pensées aussi. On dit des pensées, émotions, finalement, laisser passer les phénomènes. Et puis, dans un deuxième temps, on va apprendre à transformer les émotions négatives en facteurs vertueux. Et puis, dans un troisième temps, enfin, je dis troisième temps, en fait, on va parler plutôt de trois approches. Et on va dire la plus facile, c'est d'apprendre à laisser passer. Ensuite, la deuxième approche, c'est d'apprendre à transformer les émotions, les facteurs perturbateurs de l'esprit. Et puis, la troisième approche, qui est la plus profonde et la plus directe et la plus efficace aussi, c'est le fait de comprendre les émotions. Et on parle de laisser l'esprit dans l'état naturel. C'est l'instruction la plus profonde que le Bouddha enseigne, laisser l'esprit dans son état naturel, mais c'est une instruction qui est tellement simple et tellement directe qu'on a du mal à entendre de quoi il s'agit. On a du mal, en fait, à entendre qu'est-ce que c'est que de laisser l'esprit dans son état naturel. Ça paraît trop simple. Et d'ailleurs, il est dit, cette instruction, pourquoi on a un obstacle à la mettre en application, c'est parce qu'elle est trop simple. Trop, ah, oui, c'est trop simple, trop proche dans le sens où en fait c'est déjà là, l'éveil est déjà là. On a du mal à l'envisager. On envisage plutôt que bah non, il va falloir pratiquer pendant des années, il va falloir méditer pendant des années, il va falloir cravacher dur et puis pour atteindre l'éveil qui serait une sorte comme un lieu. Non, en fait, cette instruction nous rappelle que l'éveil est déjà là, mais c'est tellement la main au milieu de la figure, quand on ne le voit pas. Trop proche. Trop bon aussi. C'est tellement bon qu'on n'y croit pas. Et enfin, trop profond. Une instruction à la fois simple, mais qui a tellement d'implications. Mais quand je reviens à l'instruction laisser passer les émotions, qui constitue la base, je ne sais pas si vous avez eu un peu le temps de vous familiariser avec cette instruction-là. Elle est extrêmement profonde. Laisser passer les émotions, si on arrivait à laisser passer les émotions, mais il y a tout là-dedans. Souvent, le dharma, on nous donne des instructions, on a l'impression que, bon, ok, ça j'ai compris, puis je passe à, et ensuite. Ah oui, ça j'ai compris, et ensuite. Et ça, puis finalement, on se retrouve avec des tonnes d'instructions. Il y en a qu'on a mis à droite, c'est celles qu'on a compris, puis celles à gauche, celles qu'on n'a pas compris. Puis on continue, mais en fait, nous, dans le dharma, on ne demande pas d'accumuler des connaissances. Ça ne sert à rien. On peut passer des années à étudier le dharma, à accumuler des traités, etc. Ce qu'on nous demande, c'est s'il y a une instruction qu'on comprend, c'est de la mettre en pratique. Parce que sinon, on peut passer sa vie, en fait, à accumuler des connaissances, etc. Et puis finalement, on a tout, mais il n'y en a pas une seule qu'on a compris. Mais toutes les instructions, en fait, tous les chemins mènent à Rome, toutes les instructions, en fait, elles contiennent en essence si on arrive à envisager la profondeur de laisser passer les émotions, de voir à quel point, en fait, c'est quelque chose qui nous sollicite, qui est la pratique de chaque instant. Apprendre à laisser partir les émotions. Bon, j'en ai pas mal parlé le mois dernier, donc je vais peut-être pas trop revenir dessus. Mais j'aime bien cette phrase que Ringuru Rinpoche dit Dans un enseignement, il disait, il n'y a pas de voie qui mène au bonheur, le bonheur, c'est la voie. Quelqu'un lui avait rapporté ça, il est dit que c'est le Bouddha Sakyamuni qui aurait dit ça, mais bon, il dit dans l'enseignement, il n'en est pas sûr. Mais en tout cas, il dit, du point de vue de Dharma, ça pourrait tout à fait être juste, ça pourrait tout à fait être le Bouddha qui aurait dit ça. Il n'y a pas de, je vous le redis, il n'y a pas de voie qui mène au bonheur, le bonheur, c'est la voie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que dans l'idée de laisser passer les émotions, en fait, de voir qu'à chaque fois qu'on reste coincé dans un facteur perturbateur, c'est toujours, ça relève toujours de nous. C'est soit voilà, on est attaché à quelque chose et on veut absolument l'obtenir, et puis quand on l'a, on veut absolument pas que ça parte, etc. Bah, quelque part, on reste bloqué dans une préoccupation, dans quelque chose qui nous empêche de nous détendre et puis tout simplement d'être bien. Puis pareil, quand on est trop sous l'emprise de la colère, quand on est trop sous l'emprise de l'aversion, quand on est trop sous la prise, voilà, on voudrait que des choses n'arrivent pas, etc. Et puis on saisit la colère, on reste coincé dans des émotions de jalousie ou dans des émotions d'avidité, etc. Et très souvent, en fait, c'est parce qu'on retient l'émotion, bah, qu'elle reste. Elle reste là. On reste bloqué dans quelque chose qui crée des tensions dans l'esprit. Qui dit facteur perturbateur, bah, dit tension, c'est-à-dire l'esprit n'est pas en paix, il n'est pas détendu. On ne peut pas être à la fois en colère et à la fois être heureux. On ne peut pas être sous l'emprise de l'avidité, je veux quelque chose, et à la fois être dans le contentement. Ça ne va pas ensemble. Et l'idée de laisser partir l'émotion, c'est de voir que très souvent, parfois, bah, y a des choses, bah, effectivement, on aimerait que ça aille bien, mais ça ne marche pas. Il y a des problèmes qu'on voudrait résoudre, mais toujours là. Mais on peut, par contre, travailler sur le fait de ne pas rester bloqué dans les émotions et de les laisser partir. Et de voir que l'esprit peut immédiatement retrouver de la sérénité, de l'espace pour en fait passer à autre chose, pour voir autre chose, pour moins fixer sur ce qui ne va pas, mais plutôt porter notre attention sur tout ce qu'il y a autour de ça. Apprendre à laisser partir les émotions. Et j'aime bien cette idée que bah, le dharma, on cherche pas le bonheur, on apprend à être heureux. C'est toute la. Vraiment, tout le dharma, ça tourne autour de ça. C'est que finalement, qui qu'on soit, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit le fait qu'on ait ça ou qu'on n'ait pas ça, on est tous candidats au bonheur. Je trouve que c'est vraiment le message fort du dharma, c'est qu'on est tous candidats au bonheur, et on est tous candidats au bonheur maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin finalement d'attendre de devenir cette personne-là, ou d'avoir ce que ces personnes ont, ou de devenir un soi-disant grand pratiquant en accomplissant tant et tant de. Non, non. Il s'agit en fait de pratiquer, c'est-à-dire apprendre à être heureux, apprendre à être OK quand les choses vont bien et OK quand les choses sont pas OK. En comprenant que bah, même quand les choses sont pas OK, bah, ma foi, c'est OK. C'est-à-dire, voilà, c'est si. Si le problème a une solution, pourquoi s'en faire? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire? Ben, je reviens toujours à cette phrase-là, parce que je trouve que c'est vraiment. On est vraiment au cœur du dharma. Et puis si on comprend bien ça, ben, du coup, on peut vraiment comprendre là où nous emmène le dharma. On n'essaye pas de devenir quelqu'un. Un pratiquant du dharma, ce n'est pas quelqu'un qui. Un grand pratiquant du dharma. C'est pas quelqu'un à qui tout réussit. C'est pas quelqu'un qui a du succès au sens où on l'entend dans la société. Un pratiquant du dharma, par exemple, c'est pas quelqu'un qui ne rencontre pas d'obstacles ou de difficultés. C'est difficile, en fait, à encaisser, parce que en fait, on nous dit, plus vous allez pratiquer le dharma, plus vous allez devenir positif. N'allez pas croire que les choses vont bien aller parce que vous devenez de plus en plus positif. On nous avertit, hein, Parfois même, plus on devient positif, plus les défis deviennent grands. Et on attire les maras, entre guillemets. Et c'est sympa quand même de nous avertir dès le début, parce qu'on pourrait s'imaginer, bah oui, plus on pratique, moins il y aura d'obstacles. Attendez, c'est pas obstacle au sens, moins il va plus nous arriver de problèmes. D'ailleurs, on doit nous le dire dans le Dharma, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'éveil. C'est noté comme ça, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'éveil. Pour qu'il y ait éveil, et ben en fait, il faut qu'on puisse, quelque part, entraîner notre esprit. S'il n'y a rien qui nous incite à changer, si tout va bien tout le temps, ben, il n'y a aucune raison que les choses nous invitent à nous transformer, à changer. C'est les obstacles qui vont façonner quelque part nos réalisations de pratiquants. Et donc un grand pratiquant, ce n'est pas quelqu'un à qui il n'arrive plus rien. Par contre, un grand pratiquant, c'est quelqu'un qui sait intégrer les difficultés sur le chemin, qui sait faire en sorte que quand il y a des grandes difficultés, parce qu'il n'y a aucune raison en fait, il n'y a aucune raison que qu'on soit pratiquant ou pas pratiquant, on ne rencontre pas de difficultés. Et même un grand pratiquant, c'est quelqu'un qui est capable de faire face aux difficultés et bah, quelque part garder, ne pas céder par exemple aux facteurs perturbateurs, puisqu'on parle des émotions, on nous invite à comprendre le caractère néfaste des émotions négatives. Pour comprendre de quoi il s'agit quand on va parler de transformer les facteurs perturbateurs, transformer les émotions négatives, dans un premier temps, il faut qu'on comprenne en quoi c'est néfaste, à quel point c'est néfaste à la fois pour nous et à la fois pour les autres de se laisser emporter par les facteurs perturbateurs. D'ailleurs, je l'ai aussi dit pour le fait de laisser passer les émotions. On aura d'autant plus de facilité à laisser passer les émotions négatives si on comprend que le fait de rester bloqué là-dedans, bah, ça va être ni bon pour nous, ni bon pour les autres. Mais là, donc, on va parler de transformer les émotions. Et là encore, pour les transformer, pour avoir la volonté de les transformer, la détermination de ne pas céder aux facteurs perturbateurs, mais en fait de les utiliser. Et pour les transformer en facteurs vertueux, il faut, dans un premier temps, qu'on comprenne qu'elles ne sont pas, qu'elles sont, qu'elles nous sont nuisibles. Ça, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Mais c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui va nous aider, c'est aussi de comprendre que que être en chemin ne va pas nous épargner les difficultés. J'ai conscience que c'est pas vendeur comme approche. Mais en même temps, si on comprend ça, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant de comprendre que le fait d'avoir des difficultés, de rencontrer même des gros obstacles, des choses vraiment qui... Il n'y a pas de raison de complexer de ça, et il y a surtout pas de raison de se dire parce que je rencontre ce genre de difficultés, alors je ne suis pas un grand pratiquant. Sous-entendu comme si les grands pratiquants, ben en fait, si tu pratiques, plus tu es positif, bah ben oui, on s'attend à ce que ben, il n'y ait plus d'obstacles. Mais pas du tout, c'est une erreur de penser comme ça. Plus on devient positif, il faut surtout pas s'attendre à ce que les choses autour de nous s'accommodent. Non, non. Les obstacles, ce qu'on considère comme un obstacle dans le dharma, c'est quand il nous arrive quelque chose de négatif, eh ben on cède aux facteurs perturbateurs. On ne pratique plus. C'est ça l'obstacle. C'est qu'en fait, on laisse tomber la pratique. Et là, c'est considéré plus comme une difficulté, mais comme un obstacle. Et l'obstacle, c'est le fait de ne pas pratiquer le dharma. Ce n'est pas le fait que les choses aillent bien ou pas bien. Quand on regarde la vie des maîtres, on voit qu'ils ils n'avaient pas une vie en rose. Au contraire, les grands pratiquants, ils étaient, on voit, leur vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ils ont essuyé des grandes difficultés. Puis c'est vrai que on a l'impression, quand on lit dans les textes, que ça passe comme une lettre à la poste. Mais vraiment, lisons profondément qu'est-ce qui leur est arrivé et essayons de nous projeter comment on aurait réagi dans ces situations-là. Et en fait, c'est très inspirant parce que du point de vue ordinaire, quand il nous arrive des grosses difficultés, presque au niveau social, on aurait tendance à complexer de ça. Oui, bon, s'il lui arrive ça, c'est que c'est un gros nulos ou qu'il n'est pas très malin, ou etc. Non, dans le Dharma, les grands pratiquants, on voit qu'il leur arrive ça et leur façon de rebondir est incroyable. Effectivement, ça passe comme une lettre à la poste. Des grands maîtres, des grands lamas du passé qui, en un clin d'œil, ont vu leur réputation passer à la poubelle. Ils ont été critiqués, ils ont été malmenés, ils ont été. Voilà, on a colporté des calomnies. Je parle de calomnies parce qu'on dit la réputation, par exemple, le fait d'avoir une mauvaise réputation dans le monde humain, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre quand on passe peut-être d'une bonne image au fait d'être critiqué. La critique, finalement, c'est pas si facile. Bon, je ne sais pas si certains d'entre nous ont vécu ça, mais on dit que c'est quelque chose qui est très dur à vivre. Le fait de, malgré qu'on puisse avoir une attitude positive ou être droit dans ses bottes, et ben autour de nous, vivre la critique. Les calomnies, les rumeurs, les choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Et puis on voit que certains maîtres, mais ça passe comme une lettre à la poste. Et ça peut beaucoup nous inspirer. Si un jour ça nous arrive, en fait, de rencontrer de grandes difficultés, comme ça, des gros obstacles, de ne pas se dire, c'est pas parce qu'on est un mauvais karma ou qu'on est un mauvais pratiquant du dharma. Non, ça fait partie du chemin et c'est l'occasion, en fait, renforcer notre pratique du dharma. Si on arrive justement dans les coups durs à ne pas céder aux facteurs perturbateurs, la pratique devient puissante parce qu'on fait de quelque chose de négatif quelque chose de positif. Il nous arrive une tuile et on arrive justement à ne pas céder aux facteurs perturbateurs et même garder toute la place pour l'amour, la compassion, la compréhension, sans vouloir en fait rendre l'appareil ou se venger ou voilà toutes les stratégies des facteurs perturbateurs, que ce soit la jalousie, la colère, l'agression, etc. C'est là qu'on est en train de pratiquer le dharma. Et c'est donc une voie de transformation dans ce sens-là. Si on arrive à intégrer l'adversité sur le chemin, tout devient puissant, à la fois les situations positives et les situations négatives. On met ça tout dans le même panier, on avance sur le chemin, ça devient du carburant. Et plus on va rencontrer cette situation où on arrive à traverser les obstacles, plus notre confiance dans le dharma va augmenter. Il n'y a plus rien qui va pouvoir nous arrêter. Si obstacle après obstacle, on voit qu'on peut se relever, au début, peut-être que c'est dur de se relever, peut-être que c'est bon, allez, je continue. Mais au bout d'un moment, au bout de 10 obstacles, au bout de 100 obstacles, on sait que rien ne pourra nous faire changer de cap. Et c'est ça qu'on appelle un grand pratiquant du dharma. C'est quelqu'un qui est stable dans la pratique. Il n'y a rien qui le fait bouger, une montagne. Mais ça ne veut pas dire qu'il rencontre plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il est sur sa montagne, qu'il ne se passe plus rien sur la montagne. Ça veut dire qu'on est une montagne par rapport au fait que les choses aillent bien ou n'arrivent pas. Et personne, de toute façon, ne rencontre pas de difficultés. Personne ne rencontre pas même de grosses difficultés. Il y a toujours dans la vie des choses qui nous arrivent et qui font que c'est pas facile. Et il n'y a aucune raison, ça peut devenir justement un moteur. Et c'est ce qu'on appelle, intégrer l'adversité sur le chemin. On passe d'une situation négative et ça devient un carburant pour l'éveil. Ça vient nourrir en fait notre pratique du dharma, qui devient de plus en plus solide, puissante. Et finalement, on finit par être toujours de bonne humeur. Il y a un peu ça parce que dans les instructions de Lojong, il y a cette instruction garde toujours l'esprit de bonne humeur. elle est un peu difficile à comprendre. Le Jong, vous savez, l'entraînement de l'esprit en 7 points, on l'avait vu il y a quelques années. Et il y a cette instruction, à la fin, une liste de préceptes, et puis il y a cette instruction, aie toujours l'esprit de bonne humeur. C'est difficile à comprendre, mais ça ne veut pas dire souris tout le temps. Garde l'esprit de bonne humeur, c'est-à-dire un esprit stable, qui fait que même quand les choses ne vont pas bien, eh ben, il n'y a pas de raison d'être malheureux, il n'y a pas de raison de céder aux facteurs perturbateurs. Si on ne se laisse pas emporter par les facteurs perturbateurs, bah quelque part l'esprit est toujours en paix. Donc il est toujours heureux. Il y a toujours de l'espace pour la joie, il y a toujours de l'espace pour la compassion, il y a toujours de l'espace pour l'amour, même si les choses vont de travers. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Voir que c'est très lié le fait de ne pas être sous l'emprise des facteurs perturbateurs, bah naturellement on est heureux. C'est. En fait, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on rajoute à l'esprit. La joie n'est pas quelque chose qu'on rajoute à l'esprit. Ce qu'on fait, c'est simplement, on se libère de l'emprise des facteurs perturbateurs. Et c'est déjà là. On est déjà naturellement en paix, naturellement joyeux, naturellement ouvert. Et donc, bah, ouvert dans le sens ouvert à la compassion, à considérer l'autre, etc. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce n'est pas celui que je voulais aborder en premier, mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais essayer de raccrocher avec mes notes. Ou alors je continue là-dessus et puis je reviens. En fait, c'est le point que je voulais aborder en dernier, mais tant pis. Parce que finalement, ce n'est pas le plus facile, intégrer l'adversité sur le chemin. En termes de transformation, ce n'est pas celui qu'on aborde en premier, parce que ce n'est pas le plus facile. J'aurais dû commencer par le plus facile. Mais celui-là est, voilà, il est important. Ne serait-ce que de le savoir. Il y a des difficultés sur le chemin, point de vue dharma, aucun problème. Voilà, c'est normal. Déjà, c'est normal. Bah, rien que ça apaise, hein. Pas de complaisance, c'est normal. Bon, ok. Donc on n'est pas un mauvais pratiquant, on n'est pas un, voilà, s'il nous arrive des tuiles, si c'est, ouais, si c'est, même si c'est le chaos, hein, j'ai envie de dire, on ne demande pas de ne pas avoir des, on demande, l'idée d'être un pratiquant du dharma, ça ne veut pas dire avoir une vie simple et paisible, c'est pas ça. On peut très bien être un pratiquant du dharma en ayant une vie compliquée. C'est pas ça qui définit la pratique du dharma. Si on pratique le dharma et qu'on a une vie simple, ça va aussi, hein. Faut pas chercher. Mais si on a une vie compliquée. Et qu'il y a des difficultés, il y a des chaos, il y a des va et des viens, et que c'est très. Et que c'est pas un problème pour pratiquer le dharma. C'est notre vie, elle est comme ça. Et dans la vie des maîtres, d'ailleurs, tous les éveillés ne se ressemblent pas tous. Ils ont tous des. On pourrait s'imaginer, il y a des gens qui s'imaginent que l'éveil, ben, on rentre tout dans un moule, et puis quelque chose d'uniforme, de lisse, etc. Mais on voit que pas du tout. Chaque éveil a une manifestation en fonction, ben, en fait, du tempérament de la personne. Il y a des pratiquants, ils sont plutôt mer calme, ben, ça va peut-être donner des bouddhas très paisibles, très mer calme, très stables, etc. Et puis tu as des tempéraments qui sont très énergiques dès le début, même voire colériques, voilà, je ne remarque pas. Et puis, ça va donner des bouddhas, mais qui auront une activité un peu dans ce sens-là, très énergique, très puissante, à enfoncer des barrières, à enfoncer des portes, etc. Voilà. Mais par contre, la différence, c'est que. Alors, il y a des éveillés qui vivent dans le monde, il y a des éveillés qui vivent dans des monastères, il y a des éveillés qui vivent en ermite, il y a des éveillés où la vie est très simple, hein, des éveillés avec une vie avec des plannings de ministres, mais. C'est pas ça qui définit le dharma, la pratique du dharma. Voilà, on ne cherche pas en fait Il ne s'agit pas de... J'avais noté quelque part. Voilà. Il ne s'agit pas en fait de... On ne peut pas s'attendre à ce que le chemin soit comme ci ou comme ça pour nous. Il ne s'agit pas de se dessiner une idée de ce que doit être notre chemin spirituel. On ne peut pas savoir. Il s'agit de pratiquer en fonction des circonstances qui arrivent. Et il y a une instruction donc, qui est un antidote, enfin plutôt qui va nous permettre de transformer toutes les facteurs perturbateurs, quels qu'ils soient, c'est la bodhicitta. La bodhicitta, ça va être au cœur du bouddhisme parce que lorsqu'on développe la bodhicitta, ça devient un antidote à tous les facteurs perturbateurs. Chaque fois qu'on utilise la bodhicitta comme antidote, eh ben ça le transforme. Par exemple, si on est sous l'emprise de la colère, et qu'on se met à développer l'amour, et ben on voit que c'est deux émotions, deux sentiments qui ne peuvent pas cohabiter en même temps. Alors parfois on dit, bah oui, mais comment faire pour quand on est en colère, justement, on aimerait bien, mais comment faire pour être dans l'amour, puisqu'on n'est pas dans l'amour à ce moment-là. Mais l'amour au sens bouddhiste, c'est en fait souhaiter que l'autre soit heureux. Et pour souhaiter que l'autre soit heureux, bah comprendre que l'autre, il est comme nous. Il souhaite le bonheur et il souhaite ne pas souffrir. Comprendre que quand quelqu'un est en colère, bah au fond, c'est parce qu'on souffre qu'on est en colère. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est profondément en paix, il n'a aucune raison d'être en colère. Quand on est en colère, bah c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose où on n'est pas satisfait, on n'est pas. Et donc, on le sait parce qu'on on expérimente la colère. Quand on est en colère, bah on n'est pas heureux. Et donc, quand quelqu'un est en colère, on est capable de reconnaître ça. Que si cette personne, elle est complètement sous l'emprise de la colère, c'est que cette personne, elle n'est pas profondément heureuse. Et ça va nous permettre, en fait, de nous ouvrir, de laisser place à de l'empathie, de laisser place à... Dès qu'on laisse un peu de place à l'empathie, mais même une fraction de seconde, déjà, la colère n'est plus la même. Si même au beau milieu d'une dispute avec quelqu'un, on commence à se dire, cette personne, je souhaite qu'elle soit heureuse, c'est ça qu'on appelle l'amour, hein, dans le bouddhisme, c'est pas l'amour au sens... L'amour dans le bouddhisme, c'est souhaiter que l'autre soit heureux. Je souhaite que l'autre soit heureux. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'affectif là-dedans. Et pas forcément... ça peut être très... C'est quelque chose de très universel, l'amour au sens bouddhiste. On souhaite que l'autre soit heureux, on souhaite que tous les êtres soient heureux parce que, après tout, tous les êtres méritent d'être heureux autant que moi. Je souhaite être heureux, je souhaite le top, je peux comprendre que je ne mérite pas plus le bonheur que les autres. Voilà, c'est l'amour, c'est très. Faut enlever le caractère. Voilà, j'ai des atomes crochus avec elle. Pas forcément. On peut souhaiter le bonheur de tous les êtres dans cette définition-là, sans forcément même les connaître. Et il suffit qu'il y ait cette pensée qui naisse dans l'esprit pour que quelque part il y ait une brèche dans notre colère. Dès qu'il y a cette pensée, même une fraction, il y a une brèche dans la colère. L'émotion n'est plus aussi forte. On introduit quelque chose qui est totalement, qui va à l'encontre, qui ne peut pas cohabiter avec la colère. Donc voilà, par exemple, là on voit que la bodhicitta peut être un antidote à la colère. La bodhicitta peut être un antidote à l'avidité. Lorsque, pareil, si... si on souhaite être heureux, si on souhaite le top pour nous-mêmes, on peut comprendre que tous les êtres souhaitent le top pour eux-mêmes et que on partage. Je pars en roue libre. Hein. J'essaye de faire le lien entre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire la vie, la bodhicitta est l'antidote à tous les facteurs perturbateurs. Et puis du coup, mais j'ai pas révisé, donc je suis obligé de. L'avidité, c'est un facteur perturbateur. Comment j'essaie de réfléchir comment on peut intégrer cette idée de la bodhicitta qui peut être un remède à l'avidité. Vous êtes inspiré?
Ça, c'est la
Allez-y, hein, ça peut être un bon exercice.
C'est trop lourd.
Ça peut être un bon exercice de voir comment. Là, naturellement, j'aurais voulu parler du fait que, bah, bien sûr, on souhaite avoir le top, on souhaite avoir le meilleur, tout ce qui est bon, etc. Mais on peut comprendre par la bodhicitta que tout le monde souhaite ça. Et pourtant, on peut comprendre qu'on partage cette même planète. Avec cette même ressource, enfin, on partage ses ressources, on partage même l'air qu'on respire, la nourriture, etc. Et que s'il y en a un qui s'accapare tout, bah forcément, il y en a un qui va être content, mais il y en a d'autres qui ne vont pas l'être. Voilà, ça peut être une façon de se décider à travailler sur l'avidité. C'est-à-dire de voir que si on veut être heureux, faut se préoccuper que tout le monde soit heureux plutôt que je suis heureux de mon côté parce que forcément je vais rencontrer de l'adversité. Si je ne m'occupe que de moi, il y a des gens qui vont. Il y a des êtres qui vont en pâtir et ça va créer de l'adversité. Voilà, c'est une piste.
Mais ce n'est pas la préoccupation de celui qui a tout.
Pardon?
Ça ne va pas être la préoccupation de celui qui a tout. Ça va être plutôt la préoccupation de celui qui n'a pas, qui voudrait.
Oui, mais pourquoi pas? D'ailleurs, pourquoi. Nous, même si on a beaucoup de choses, même si par exemple on aurait des conditions ou des conditions privilégiées, on peut quand même se voir dans notre esprit de l'avidité, à vouloir toujours plus, etc. Et d'abord comprendre que cet état d'esprit, en fait, qui veut toujours plus, eh ben, nous rend pas heureux. Et là, dans ce qui est proposé comme méthode, de voir, de développer la compassion pour les êtres, de développer la bodhicitta pour voir en quoi ça nous aide, en fait, à apaiser, à transformer cette avidité et voir la transformer peut-être en générosité. Comment de l'avidité, eh ben, on passe à de la générosité. Eh ben voilà, en réfléchissant sur la bodhicitta, au fait que on est heureux. De jouir peut-être de ses richesses, de cette aisance, etc. Et puis, au lieu de vouloir toujours plus, vouloir en faire profiter les autres. Alors, on dit dans le fait de transformer les émotions, on parle de transformer la colère en amour, transformer la jalousie en joie. Je vais y revenir, mais je fais un récapitulatif. Transformer l'avidité en générosité, transformer l'orgueil en. Transformer l'orgueil en humilité, et enfin. Ben alors. Alors. Oui, j'avais noté aussi transformer la paresse en énergie. En fait, c'est intéressant parce que, et ça, je l'avais déjà lu dans un enseignement, ça revient finalement toujours à comment transformer une émotion, eh ben, en pratiquant l'inverse. C'est assez pragmatique, hein. Quand on voit colère, comment transformer la colère? Ben, en méditant sur l'amour. Comment transformer la jalousie? En méditant sur la joie. La jalousie, c'est le fait de ne pas se réjouir du bonheur des autres. En fait, quelqu'un est heureux, et en fait, ça nous empêche d'être heureux. Parce que c'est comme si ça nous empêchait d'être heureux. Puis au contraire, on voudrait, quand il lui arrive quelque chose de pas bien, Bah, c'est là qu'on se réjouit. C'est ça la jouissance, c'est assez tordu. Et on lui dit, bah, comment travailler sur la jalousie? Bah, en développant la joie. La joie, en fait, du bonheur de l'autre. Et c'est beaucoup de gens vont dire, mais c'est très artificiel. C'est difficile de se dire, oui, bon, bah, je me réjouis, je suis content pour toi.
En grinçant
les dents. Oui, en grinçant les dents. Et oui, mais ça marche. D'ailleurs, c'est vrai, hein, dit comme ça, ça fait très artificiel. Et puis on sait que quand on est sous l'emprise de la jalousie, c'est un facteur perturbateur. En plus, il n'y a rien pour lui, quoi. C'est pénible, quoi. Et chaque fois que l'autre est heureux, nous, on est là. Ah. Ouais, il m'énerve, etc. Et puis, bah, tant qu'il est heureux, c'est comme si ça nous inhibait dans notre bonheur. Et là, on nous dit, bah, en fait, pratiquez l'inverse. Entraînez-vous, même si c'est artificiel, à vous réjouir. Mais le truc, c'est que ça marche. Mettez en application cette instruction qui est très simple. Et je vous assure que, en fait, ça marche même très, très vite. On passe de l'un à l'autre. Très rapidement. Simplement, ça peut être. C'est difficile à comprendre. Il faut juste se jeter à l'eau. Faut y aller, quoi. Et c'est là qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on se pourrit la vie, en fait ? Être à chaque fois que l'autre est heureux, à être malheureux, la jalousie, c'est vraiment de l'auto-sabotage. On se sabote son propre bonheur alors que l'autre est bien. Et donc, du coup, il y aurait toute matière à se réjouir. Et donc, en fait, quelqu'un qui a cette tendance à la jalousie, ben, en fait, on dit qu'il a une grande propension à la joie. Quelqu'un qui a tendance à la jalousie, c'est parce qu'en fait, il sait observer, il sait reconnaître les qualités chez les autres. Il sait reconnaître le bonheur chez les autres. Donc, il y a énormément de matière à être inspiré. Par contre, il faut s'entraîner à ne pas se laisser plomber. C'est un peu quelqu'un qui verrait quelqu'un qui joue vachement bien à la guitare. Oh là là, lui, il m'énerve à bien jouer de la guitare, etc. Au lieu de se dire, bah, moi, j'aimerais bien, en fait, être comme lui. Et donc, bah, je vais travailler mes gammes. Je vais m'entraîner à jouer de la guitare parce que... Donc, il y a deux réactions opposées. L'une, on est inhibé, puis bah, et puis l'autre, et ben, en fait, ça nous donne un moteur. Tiens, ah, c'est chouette, il joue super bien de la guitare, ah, j'aimerais bien. Et du coup, on se désinhibe. Donc, on fait exactement l'inverse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on travaille sur la paresse, par exemple, bah là aussi, ça paraît compliqué, mais l'idée, c'est de combattre la paresse par l'énergie. Vous avez c'est donc... ouais, la paresse est une tendance. Elle n'a rien de solide en soi, c'est une habitude. Donc comment on la contrecarre? Bah, par l'attitude opposée, qui consiste à l'énergie. Alors il y a trois formes de paresse qui est décrite dans le Dharma. La première, c'est la procrastination, c'est-à-dire de remettre à plus tard. Bah, comment on la combat? Bah, en agissant tout de suite en répondant tout de suite quand il y a un truc à faire, ne pas repousser. Et d'ailleurs, Rinpoche Rinpoche nous raconte souvent cette histoire où il dit qu'il était vraiment sujet à la procrastination. Et un jour, il s'est dit, il était tout jeune dans un monastère et puis il remarquait que voilà, c'était vraiment son truc, quoi, cette paresse, toujours remettre à plus tard, etc. Puis un jour, il se décide dans le mur de la cellule, pour une grande résolution, et puis il marque au feutre, il tague son mur en mettant en grand « J'arrête de procrastiner ». Je ne sais plus comment c'est en anglais, mais « J'arrête de procrastiner ». Et puis il y a son voisin de cellule, en fait, une fois qu'il part en petit, il marque « Dès demain ». Ouais, je l'adore cette histoire. Alors là, voilà, l'idée, c'est cette forme de paresse, et ben on la combat par le fait d'arrêter de procrastiner. La deuxième forme de paresse, c'est le fait de, c'est la paresse qui consiste à remplir nos journées d'activité pour éviter justement d'avoir des instants de voilà où on doit faire face à son esprit quelque part. On s'occupe, on tue le temps. Voilà, on tue le temps. C'est vraiment cette expression-là, quoi. Surtout en remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Ben là, on va nous encourager justement à faire des périodes sur le coussin. Pratiquants qui sont trop sujets à truc, eh bien, la pratique sur le coussin est un très bon exercice. Parce que ça va contrecarrer l'idée que le bonheur, ça doit être rentable. Enfin, voilà, qu'il faut chercher le bonheur en y mettant des... etc. Là, on nous demande un truc complètement à l'opposé, s'asseoir sur le coussin et apprendre à ne rien faire. Et apprendre à être bien. Voilà. Et il peut se passer quelque chose. Voilà, de voir qu'on n'est pas obligé de courir après quelque chose pour se sentir bien. Ça peut être une très grande expérience. Et enfin, la troisième forme de paresse, c'est la paresse qui consiste à se dire qu'on n'est pas capable. C'est l'auto-dépréciation de soi. « Ouais, non, mais ça, la pratique du dharma, c'est pas pour moi. Non, mais ça, c'est des grands pratiquants. Eux, moi, c'est pas à ma portée. Je peux pas pratiquer le dharma. Je suis pas capable, etc. » C'est un facteur perturbateur très sournois. On dit que c'est très dangereux de se laisser aller à ce genre de trucs. Et on le combat, en fait, en renonçant à ça. En comprenant qu'on est tous candidats au bonheur et le dharma s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, on est tous candidats à la pratique. Il y a, quand on dit je ne pratique plus le dharma, je suis nul, j'ai laissé tomber, c'est notre esprit en fait qui dit ça. Et quand on nous dit, c'est reparti, je suis voilà, j'ai un coup de boost, etc., c'est aussi notre esprit. Comprendre qu'en fait, tout ça, c'est notre esprit qui le raconte. Et plus on va comprendre ça, plus on va voir qu'on peut justement se libérer de tous les facteurs perturbateurs, y compris ceux qui sont puissants comme ça, où on se complaît dans cette idée qu'on ne peut pas faire. Ah ben là, c'est sûr, hein, plus on entretient cette idée-là, plus on se sabote. Il n'y a aucune chance qu'on puisse raccrocher. Donc l'idée, c'est de faire l'inverse. Je suis capable. Se nourrir de « je suis capable ». Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas devenir un grand pratiquant du dharma. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas mettre le dharma au cœur de ma vie. Même, hein, c'est vraiment c'est à la portée de tous de passer de « je suis bon à rien » à « je suis capable de tout ». Et ça peut même se faire en une fraction de seconde. C'est l'esprit qui fait ça. Et parce que c'est l'esprit qui est ça, même après des mois de complaisance à se vautrer dans le malheur, parce qu'on est fort hein, pour ça, se vautrer dans le « je suis bon à rien ». Regarde, les autres, ils sont tous... Et il suffit en fait d'un moment pour « j'arrête ». Et je passe à je suis capable de tout. Et il n'y a rien qui puisse m'arrêter. C'est uniquement affaire d'esprit. Bien sûr, quelqu'un qui est habitué, à force de rencontrer ce facteur perturbateur, à se relever, etc., cette tendance, justement, à je suis capable de tout, elle va devenir de plus en plus puissante. Donc, mais n'empêche que le processus reste le même. Pour un pratiquant débutant, on va dire, que pour un pratiquant confirmé. C'est pas une histoire de plus je pratique, je suis capable de tout parce que tout répond à mes attentes, je rencontre plus de difficultés, je rencontre plus d'obstacles, c'est pas ça. Alors on parle aussi de transformer la générosité, l'orgueil en humilité. Bon, ça c'est assez facile à comprendre quand on détecte l'orgueil, quand on reconnaît l'orgueil dans l'esprit, et puis quand on comprend qu'en fait l'orgueil c'est un poison. Parce que quand on est sous l'emprise de l'orgueil, on ne peut plus recevoir des autres. On pense qu'on est le meilleur, on pense qu'on a raison, surtout, et donc du coup on n'est plus réceptif. On ne peut plus recevoir de qui que ce soit. On ne peut plus être réceptif même aux influences très positives parce qu'on est orgueilleux, on est sous l'emprise de l'arrogance. Et on dit que c'est un poison qui est extrêmement sournois. C'est difficile en fait de s'en rendre compte. Ça peut être très, très subtil, l'orgueil. Si on se prend pour quelqu'un. Et on va nous dire donc de développer l'humilité. Et si on a du mal avec cette instruction, on peut réfléchir sur l'interdépendance. C'est ça ce qui est un remède à l'orgueil. L'interdépendance, c'est comprendre que on n'existe pas on n'existe pas par nous-mêmes. On existe en interdépendance de causes et de conditions. Tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes nos qualités, même ce corps, en fait, il ne dépend pas de nous. On ne l'a pas obtenu par nous-mêmes. Il vient de beaucoup de... Je prends un exemple. On peut développer de l'orgueil pour tout. Notre arrogance, elle peut se déplacer dans des choses même qui n'ont absolument rien à voir. On pourrait même développer de l'arrogance par rapport au fait d'avoir un corps en bonne santé ou un corps beau. Le fait d'être beau pourrait nous faire développer de l'arrogance. Et quand on y réfléchit, mais en fait, en quoi il y a une fierté à avoir un beau corps en bonne santé? En fait, il ne vient pas de nous, il vient de nos parents, etc. Mais le fait de ne pas le reconnaître, eh ben, on se met à prendre ça comme... voilà, c'est parce que c'est moi. c'est un véritable poison. Et la souffrance des orgueilleux, c'est qu'ils chutent de haut. On dit que c'est la souffrance des dieux. Les dieux, c'est décrit comme un paradis où vraiment, c'est des êtres aux capacités extraordinaires, aux qualités extraordinaires. Mais comme ils n'ont pas réalisé la vacuité du moi, eh bien, on dit la seule souffrance de Dieu, c'est au moment où les conditions se désagrègent, le karma positif est épuisé, et donc ils chutent de haut, parce qu'ils ont cramé tout leur karma positif en se complaisant dans cette idée d'un soi. Et ça, on connaît. On peut connaître. Quand on est sous l'emprise de l'orgueil, à un moment donné, allô, tu planes là, et ça nous ramène, dans le commun des mortels. On voit que on n'est pas quelqu'un de spécial, on n'a rien de spécial. Et ça nous fait donc on parle, ça nous rend humble, et quand on est humble, l'avantage c'est que du coup on est réceptif, on peut recevoir. On peut être influencé par les qualités des autres, on peut être influencé par, on peut recevoir des autres, etc. Et on peut donner. C'est aussi une des caractéristiques, comme le fait de transformer l'avidité en générosité, on transforme aussi l'orgueil en générosité. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui reconnaît qu'on ne se fait pas tout seul, en fait on est dépendant des causes et des circonstances, on va naturellement cultiver une grande gratitude par rapport à ce qu'on a reçu. Parce qu'on voit qu'en fait, ce n'est pas forcément nous qui avons gagné ça par nous-mêmes. On a bénéficié de l'influence, de l'amour de nos parents, de nos proches, de nos amis, de toutes ces influences positives qui font que, on en est très conscient et ça développe naturellement de la gratitude. Et la gratitude, on a envie de la partager. Moi aussi, j'aimerais pouvoir rendre l'appareil. Pas être redevable, pas forcément au sens redevable, mais rendre l'appareil. Et ça nous fait développer de la générosité. Donc ça, c'est comment transformer les émotions en générant les émotions contraires. Transformer les émotions négatives en générant les émotions contraires. Et voilà, je faisais un lien avec la bodhicitta parce que ça peut beaucoup nous aider, en fait. Même quand je parlais de réfléchir sur l'interdépendance, c'est toujours relié avec la bodhicitta. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de voir les choses comme une illusion, qui est peut-être un point plus difficile, apprendre à voir les choses, tous les phénomènes, comme un rêve ou comme une illusion. Alors, dans un premier temps, on va intégrer l'impermanence. Et ce n'est pas facile de vraiment comprendre l'impermanence, donc on contemple le caractère transitoire de tous les phénomènes. Voir que aucune situation, aucune émotion, aucune pensée, aucun phénomène n'a le pouvoir de rester. Tout est très transitoire. Même quand on est embarqué dans des émotions très fortes, de colère, d'avidité, etc., de voir que si on ne s'agrippe pas à ça, les émotions passent. Bien sûr, elles reviennent. Elles reviennent, les situations reviennent, etc. Mais n'empêche que tout ça est très transitoire. C'est une succession d'instants de conscience. Et tout ça, ça passe. Et ça va nous permettre donc de voir que, de plus en plus que nous sommes. De voir que quand on dit que le dharma va nous permettre de réaliser ce que nous sommes, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui dirait « Ah, ça y est, je me suis enfin trouvé. Je sais enfin qui je suis. » C'est pas ça. Au fait, au contraire, on va voir que ce que nous sommes, c'est beaucoup, beaucoup de pensées, des émotions, c'est un corps sans arrêt en transition, c'est une conscience, une petite conscience là-dedans, c'est des doutes, c'est beaucoup de choses. Et en fait, il n'y a pas besoin de savoir, en fait, de trouver quelque chose qui soit nous. C'est le fait de voir cette fluctuation qui va nous révéler ce que nous sommes, c'est-à-dire des instants de conscience successifs, sans début ni fin, sans naissance ni mort. C'est ça qu'on va réaliser, sans fortement qu'on va pas trouver quelque chose qui voilà, je me suis trouvé moi-même. Non, au contraire. Et ça va nous permettre de voir les choses de plus en plus comme un rêve, comme une illusion. Et le fait de voir les choses comme un rêve, comme une illusion, vont renforcer encore notre compréhension des phénomènes, la compréhension de ce que nous sommes, nous permettre de réaliser la sagesse. Et donc, ça va être aussi un moyen très puissant de travailler sur nos émotions, de voir que il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, avec les émotions. Il n'y a pas lieu d'en faire tout un plat, ces émotions. Elles apparaissent en dépendance de causes et de circonstances. Les situations se mettent en place, les émotions se mettent en place, mais dès que la situation change, les émotions, c'est pareil. Et on peut être OK avec ça. On peut laisser les choses être. On peut laisser les choses venir, laisser les choses partir. C'est l'esprit. Les situations, c'est l'esprit. Les pensées, c'est l'esprit. Les émotions qui naissent, c'est l'esprit. Mais ce n'est pas nous au sens... voilà, une sorte de moi qui serait bloqué. Non, c'est juste l'esprit et son rayonnement et sa manifestation. Et on peut se détendre dans tout ça. On peut apprendre à se détendre dans tout ça, c'est-à-dire laisser les choses être, sans les rejeter, sans les retenir. Et ça paraît fou de dire ça. En fait, il ne s'agit pas de faire quelque chose. Il s'agit d'apprendre à laisser les choses être. Si on est capable de faire ça, quand les situations vont bien, quand les situations vont pas bien, naturellement, la joie va se développer. On va voir que il n'y a pas lieu de se mettre à l'abri de certaines situations, ou de trop redouter certaines situations, ou de trop courir après certaines situations. Tout se laisse... voilà, c'est l'esprit. Et on regarde l'esprit. Donc, c'est pas forcément... facile dans un premier temps, mais c'est l'impermanence qui va nous donner la clé de ça. Le fait de regarder les choses comme transitoires. Ouais.
Ça paraît paradoxal dans le sens que quand j'entends d'un côté qu'on doit, c'est une négation, on ne doit pas céder à la facteur perturbateur, ne pas céder l'expression.
Ouais.
Ça fait un petit peu tiquer, et puis d'un autre côté, on doit laisser faire. Pour moi, c'est deux. Il y a quelque chose qui coince.
Ouais. Alors, est-ce j'ai utilisé. Le... Ouais, voilà. Là, je comprends.
Est-ce qu'on peut utiliser d'autres mots pour qualifier.
Ouais. Ouais. Parce que j'entends tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, quand j'en dis ne pas céder, c'est-à-dire ne pas céder à la tentation de soit plonger dans l'illusion, soit de la rejeter. Et je dis céder dans le sens où se laisser emporter, où il y a un mouvement en fait de saisie. Et là, je parle vraiment effectivement de ne rien faire. Si céder ça te dérange, oublie. C'est parce qu'il s'agit vraiment de ne rien faire par rapport à ça. Bon, là, je parle d'un niveau d'une instruction qui est pas facile. Comme j'ai dit, il y a d'autres instructions où justement on va utiliser des antidotes puissants pour ne pas, sachant qu'on va plonger dans la quand on sent qu'on va se laisser emporter par l'émotion et qu'on ne comprend pas ces instructions, la voie la voie progressive prend le relais. Il y a des antidotes proposés par le Bouddha qui sont peut-être plus contraignants, mais non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. D'ailleurs, je ne me laisserai pas. Shantideva, par exemple, il dit dans un texte sur la patience, pratiquer la patience, d'abord il nous fait comprendre dans tout un chapitre à quel point si on cède à une émotion comme la haine, la colère, même après des années d'accumulation de mérite, d'influence positive, il suffit qu'on se laisse aller sous l'emprise de la colère, à accomplir un acte qui va être négatif, qu'on va cramer tout notre karma négatif. Donc il nous invite vraiment à comprendre que même au péril, il y a des expressions comme ça, même au péril de ta vie, ne laisse pas ton esprit s'embarquer dans les facteurs perturbateurs. Et pour ça, il dit, quoi qu'il arrive, que mon esprit soit sous l'emprise d'une intense colère, je resterai comme une souche. Si mon esprit est enclin à l'avidité, à la convoitise, etc., je resterai immobile comme une souche. Donc là, on est dans le contexte de ne pas céder. Et tous les moyens sont bons. Notre objectif, c'est quoi qu'il arrive, je ne cède pas. Il y a quelque chose de très disciplinaire, très contraignant. Mais si on comprend profondément ce que ça veut dire de laisser être l'émotion, profondément, notre esprit ne fait rien. Parce qu'il n'a ni résistance, ni... il n'est ni en train de bloquer l'émotion, ni en train de... d'avoir la tentation de s'y plonger, parce qu'il reconnaît simplement l'émotion pour ce qu'elle est. Un facteur transitoire, juste un mouvement de l'esprit, apparition, disparition. Et il n'y a aucune identification à ça. On laisse juste l'émotion aller et venir. Même une très grande irritation peut être observée sans rien faire.
C'est une observation.
Ouais. Mais une observation vraiment profondément neutre, c'est-à-dire on n'est pas en train de dire ouais, c'est pas bien d'avoir de l'irritation, je ne devrais pas être irrité, oh, surtout pas. Il y a déjà de la peur. S'il y a déjà de la peur, ça va être compliqué. Simplement, on laisse l'esprit être ce qu'il est. Il y a irritation. Il n'y a pas quelqu'un forcément d'irrité. Il y a irritation. N'implique pas je suis irrité. Il y a irritation, c'est OK. Et là encore, on ne cherche pas à s'en débarrasser. On ne cherche pas à en faire quoi que ce soit parce qu'on n'en pense rien de l'irritation. On n'en pense rien. C'est ni bien ni mal, c'est circonstance, cause et circonstance qui se manifeste. C'est l'esprit. C'est reconnu qu'en tant qu'esprit. Et donc, l'irritation, elle ne peut faire que changer. Et quand elle change, il n'y a même pas quelqu'un qui a laissé... Il n'y a même pas quelqu'un qui a laissé partir l'émotion. C'est l'émotion est partie. Et ça laisse aucune trace dans l'esprit. L'esprit prend une autre forme, tout simplement. Il y a... Voilà, ça faut le retenir. Donc, si céder, c'est... on pourrait considérer ça, alors, à ce moment-là, comme deux instructions différentes. Si on n'arrive pas à pratiquer comme ça, eh bien, quand même, dans le Dharma, on va nous inviter à ne pas céder à la colère. Si le fait d'être libre de l'irritation, on n'en est pas capable, parce qu'on ne reconnaît pas l'irritation et pour ce qu'elle est, et qu'on est identifié, alors l'instruction « ne pas céder à la colère » va nous être utile. Parce que sur le chemin, quand même, ça va nous éviter de créer des gros dégâts. On dit la colère, c'est comme un feu de forêt. C'est, au départ, c'est une étincelle d'irritation, mais si on la laisse nous emporter... ça peut brûler toute la forêt de nos actions positives, même si on a compris beaucoup d'actions positives, en un instant de colère. Alors, évidemment, je ne parle pas d'une petite brouille avec un ami. Là, on parle de la colère, c'est-à-dire qui nous pousse à accomplir des actes vraiment regrettables, qui vont avoir des grosses conséquences, quoi. Et qui font que, malgré qu'on a cultivé des choses positives auparavant, ça va venir détruire tout ça. En un instant. Ça te parle ?
Oui, mais c'est toujours. Ça me semble toujours compliqué. D'opposer un antidote à un poison. Alors, c'est comme si deux émotions
oui, alors,
étaient la même, ouais. même étaient deux phases d'une même pièce. Et,
on parle de facteurs perturbateurs. Quand on parle de facteurs perturbateurs et qu'on parle de poison, on va parler d'antidote. Et là, on est dans le contexte de la voie progressive. Et c'est vrai qu'on est sans arrêt dans les enseignements, sans arrêt en train de jongler entre voie directe et voie progressive. Et puis on fait des allers-retours et ça peut être compliqué au début de faire les ponts. Mais en fait, c'est toujours une histoire de contexte. Le contexte, c'est que du point de vue ultime, nous sommes déjà Bouddha et il n'y a aucun problème avec ce qu'est notre esprit. Que les émotions sont notre esprit et en essence, elles sont de la nature de l'esprit, donc elles sont sagesse, donc il n'y a aucun problème. Et dans ce contexte-là, on ne va pas parler de facteurs perturbateurs. On va parler de facteurs perturbateurs comme lorsqu'on ne reconnaît pas ça, qu'on n'est pas éveillé et qu'on ne reconnaît pas la nature de nos émotions, et bien du coup, il y a quelqu'un qui ressent des émotions. Il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a quelqu'un qui est avide. Il y a quelqu'un, parce qu'on a une très forte saisie sur le sujet et l'objet. Il y a cette dualité qui fait que l'esprit et la manifestation de l'esprit sont envisagés à tort comme un sujet qui perçoit des objets distincts de lui-même. Ça, c'est le samsara. Mais même dans le samsara, parfois, on peut avoir des instants d'éveil. Des instants d'éveil où, pendant un instant, une courte durée, on reconnaît la nature de notre esprit, on voit qu'il n'y a aucun problème avec nos émotions. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, on voit qu'il n'y a rien à faire avec les émotions. Aucun problème. Il n'y a pas lieu de se débattre, il n'y a pas lieu d'en faire quoi que ce soit, il n'y a pas lieu de se complaire, il n'y a pas lieu de leur résister. Il n'y a pas... Simplement, on les laisse passer. C'est même pas on les laisse passer, elles passent. Les phénomènes vont et viennent. L'instruction, effectivement, si ça pouvait être comme ça tout le temps, c'est le top. C'est l'éveil. N'empêche que, parce que c'est pas comme ça tout le temps, et parce que, justement, parfois on est sous l'emprise des émotions perturbatrices, on les reconnaît, on voit très bien qu'on n'est pas libre, qu'on est sous l'emprise d'un facteur perturbateur, et là c'est très dur peut-être de reconnaître la nature des émotions, pas grave. On sait qu'elles ont un caractère négatif, et donc on ne cède pas. Et là du coup, plein d'enseignements, de la voie progressive, on prend le relais, ne pas céder à l'émotion, les laisser passer. Même si c'est un jeu qui les laisse passer, on les laisse passer. On s'entraîne avec les petites choses, on s'entraîne avec les petites les choses de notre quotidien qui nous sont faciles, sur lesquelles travailler, et puis après on verra. Et puis c'est important de s'entraîner avec les petites choses. Moi en ce moment, je cite cet exemple parce que c'est un truc qui me parle. Dans le réfectoire, on a dans le réfectoire au monastère, on a une boîte à chocolat. Et dans cette boîte à chocolat, il y a toujours du chocolat.
Le truc à pas aborder.
j'aurais pas dû. Je regrette déjà ce que je vais vous dire. Et je vois bien que, en plus, il y a un petit appel. Et non seulement, mais en fait, on en a tout le temps. Et puis, aussi loin que je me souvienne, il y a toujours. Enfin, si, il y a eu des périodes. Mais bon, depuis pas mal de temps, il y en a tout le temps du chocolat. Et je veux dire, moi, je suis client, j'aime bien. Mais dans mon monde, il n'y a pas de manque de chocolat. La pénurie de chocolat n'existe pas. D'ailleurs, même le temps que je mange une tablette, il y a quelqu'un qui en a apporté deux. Et donc, du coup, il n'y a même pas un moment où je me dis je ne vais pas trop en manger parce que si j'en mange trop, il n'y en aura plus. Non, non, c'est je peux en manger autant que je veux.
C'est pas comme l'essence.
C'est pas la même. C'est pas la même. Donc, je ne me censure pas. Et j'y vais allègrement. Mais j'ai quand même remarqué que depuis un certain temps, il y a une espèce d'habitude qui s'est installée. Bon alors, pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut que vous compreniez que je n'ai absolument aucune culpabilité par rapport à ça. Enfin, voilà. Il faut laisser tomber la culpabilité dans le truc, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai aucun problème à manger du chocolat. Mais par contre, j'ai remarqué que c'était devenu une habitude très ancrée. C'est-à-dire que, et je l'ai remarqué depuis que quand je pousse la porte du réfectoire, j'ai une image de chocolat qui naît dans l'esprit. Et c'est un phénomène qui est presque mécanique. C'est ça la tendance. Mais vraiment, hein, je pousse la porte du réfectoire, il y a l'image du chocolat qui naît dans l'esprit. Au départ, je ne le repérais pas, en fait. D'ailleurs, j'étais déjà en train de manger le chocolat, avant de comprendre qu'il s'était passé un truc. Alors que là, je le repère, c'est qu'il y a cette image de chocolat. Et donc, je vois bien que c'est quelque chose de très mécanique, de l'ordre de l'habitude. Il n'y a aucune... Il n'y a même pas d'envie à ce moment-là. C'est l'esprit qui agit. Et puis, j'ai pris l'habitude, même si je suis descendu pour absolument autre chose, je vais faire un détour à la boîte de chocolat, je vais prendre mon chocolat, et puis je continue ce que j'ai à faire. Et puis, j'ai remarqué que ce qui m'embête, en fait, c'est ce côté un peu robotique, quoi, comme un robot. Truc qui arrive, hop, je pose pas de questions, je suis là. Et je dirais même, j'en profite même pas. Tellement c'est quelque chose d'habituel. Et ça me dérange. Voilà. Pour dire, c'est que c'est pas le fait de manger du chocolat qui me dérange. Je peux pas... Ce qui me dérange, c'est le fait d'être entraîné dans un processus sur lequel j'ai aucune liberté. Et au moment d'en prendre conscience, je suis déjà en train de manger le chocolat.
Là, c'est un plaisir.
Comment ?
C'est quand même un plaisir.
Même
le chocolat est très bon.
Même pas.
Alors, mais ça veut dire que si demain on enlève cette boîte de chocolat,
il y aura un manque.
Peu importe, je vais revenir à cette notion de plaisir, mais là, du coup, je vais la mettre de côté, la notion de plaisir. Effectivement, il pourrait y avoir un plaisir, et puis vous pourriez me dire, attends, c'est pas grave, vas-y, mange-le ton chocolat, fais-toi plaisir. Bah oui. Et moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je comprends très bien, mais. Je peux aussi avoir envie d'être libre de ça. C'est-à-dire être libre d'aller manger le chocolat ou être libre de ne pas aller manger le chocolat. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire plaisir, aucun problème. Et j'y vais. D'ailleurs, je le fais allègrement. J'ai aucune culpabilité par rapport à ça. Et aucune culpabilité par rapport au fait de goûter le plaisir. Maintenant, je remarque que il n'y a aucune liberté. C'est quelque chose de très mécanique et de très... Mais à la limite, j'en ai même pas conscience. C'est là que je te dis, il n'y a même pas de plaisir. C'est-à-dire qu'au moment où je prends conscience, le chocolat est déjà avalé. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Et ça, j'ai envie de travailler dessus. Et j'ai d'autant plus envie de travailler dessus que ce n'est pas grave. C'est-à-dire, si tu me dis, vas-y, mange-le ton chocolat, ce n'est pas grave. Clairement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Parce que ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas grave de manger le chocolat et ce n'est pas grave de ne pas le manger. Et si on ne travaille pas sur ces choses qui ne sont pas graves, on ne pourra pas travailler sur les choses qui, justement, à un moment donné, si on n'a pas pas appris à laisser passer les émotions, il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas quand il va nous arriver une tuile qu'on va être capable de comprendre cette instruction-là. Mais voilà, c'est avec des petites choses du quotidien qui sont marrantes en plus. Enfin, voilà, je rigole en me regardant avec cette... Et du coup, j'ai envie, comment ?
Je change de pomme, j'ai une buanderie à côté. Et regarde la différence que ça va te causer.
Je change de pomme ?
De porte. Tu prends la buanderie à côté, la porte.
Tu vois, oui, je change de...
Voilà, de direction.
Pas mal. Mais je triche un peu. Mais... Ouais... J'ai envie de travailler sur cette liberté, la liberté de manger le chocolat, la liberté de ne pas manger le chocolat. Et ça peut être un jeu aussi. C'est-à-dire savoir que si j'ai envie de manger le chocolat, je peux. Savoir que si je ne le mange pas, je peux laisser passer l'émotion et ça peut ne laisser aucune trace, aucune frustration. Ça aussi, c'est intéressant. De voir que si je laisse passer, je passe à autre chose. On se laisse la liberté de passer à autre chose, c'est-à-dire de ne pas focaliser là-dessus. Et donc, naturellement, si je ne focalise pas dessus, il se passe autre chose. Donc, je passe à autre chose et j'ai oublié. Alors, évidemment, il peut y avoir des ratés, ça, on va le voir. D'ailleurs, à un moment donné, tiens, j'ai envie de travailler sur l'émotion, je le fais, puis j'aurais dû manger le chocolat. Petite frustration. D'ailleurs, on voit qu'il y a une petite saisie, et c'est pas grave. Hein, on s'entraîne comme ça, de voir, tiens, à un moment donné, il n'y a plus de saisie du tout, plus de trace par un moment donné, il y a encore de la saisie. C'est de ça que je parle. Oui, c'était pour revenir au fait de ne pas céder à l'émotion avec toute cette compréhension. C'est-à-dire, c'est pas je ne cède pas à l'émotion pour ne pas céder parce que. Non, parce que j'ai envie d'être libre. Et je le fais délibérément comme un jeu de voir que je peux laisser l'émotion partir. Je peux la laisser partir. Ne pas y céder, ça peut simplement être le fait de différer. Mais dans les textes de Shantideva, il parle de réfréner. Et là, on est dans la voie progressive. S'il y a un facteur qui nous pousse à accomplir, un facteur mental qui nous pousse à accomplir quelque chose, qui nous entraîne à accomplir quelque chose de négatif, à tout prix, il faut le réfréner. Et là, on n'est pas dans la... On n'est pas dans une méthode qui est directe et qui est souple. On peut avoir une méthode souple si notre esprit il est souple. Mais pour entraîner l'esprit à être souple, bah, parfois il faut réfréner. On contrecarre la tendance par une autre tendance. Ouais. Voilà, bah, on va faire la dédicace. Que le mérite accompli ici-même ébranle le tréfonds du samsara et que les êtres sortent de leur torpeur pour reconnaître la nature de l'esprit. Par cette vertu, puisse-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci. Merci.